Club Naturo sur Nutri Radio.
Bienvenue dans cette émission Club Naturo sur Nutri Radio. Chaque lundi entre 11h et midi, et cette semaine, nous avons la chance d'avoir Alexandra Talositi avec nous. Bonjour Alexandra.
Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde.
Alors Alexandra Talositi, franchement, vous êtes vraiment dans l'actu puisqu'à quelques jours seulement de la clôture de votre 6e congrès du syndicat des professionnels de la naturopathie qui s'est tenu à Villejuif. On était là, on a passé un très très bon moment. Déjà bravo pour cette organisation, c'est pas facile.
Merci.
On va profiter quand même, vous avez réuni du beau monde et on va profiter pour faire un petit bilan. Quel bilan vous en tirez déjà?
Que du kiff, là, j'ai eu le temps de dormir depuis le 10 novembre, donc ça va. Beaucoup de plaisir. Vous le savez, moi, j'aime bien voir les gens en vrai, donc j'étais très contente de voir les partenaires, les conférenciers, vous, Fabrice, qui nous avez fait l'honneur d'être là sur les deux jours, et puis les professionnels qui étaient présents. Ça, c'est le retour très positif. Petit bémol, on avait des travaux sur la ligne TGV Sud-Est. Donc, on a des visiteurs qui n'ont pas pu venir. Donc ça, c'était juste un peu dommage. J'ai pas eu tous les visiteurs prévus sur cet événement. Donc voilà.
Bon. Évidemment, on va dire que c'était une réussite et que vous préparez déjà celui de l'année prochaine. C'est pas tous les ans et demi. C'est l'année prochaine. On veut déjà nous être là.
Alors, vous pouvez déjà vous organiser, ça sera fin d'année 2025. On l'espère encore plus grand parce qu'on aimerait bien l'année prochaine avoir des organisations professionnelles d'autres pratiques. Parce que cette année, Fabrice, vous avez vu, on avait les syndicats d'hypnose, la collégiale de réflexologie. Donc, on aimerait bien faire un événement avec d'autres organisations professionnelles pour qu'on ne soit pas que des naturaux, mais d'autres produits bien-être sur cet événement. Donc,
fin d'année prochaine, très bien. Alors prenez une date stratégique si je peux me permettre.
Ça sera pas un week-end prolongé. Là, je me suis laissé, je me suis laissé persuader parce qu'on avait fait un petit sondage il y a déjà 16 mois auprès des adhérents pour savoir quelle date ils préfèrent en novembre. C'était celle-ci qui était ressortie le plus nombreux. Mais en tout cas, nous, là, on a acté, on ne demandera pas l'avis de nos adhérents et ça ne sera pas un week-end prolongé en novembre.
Voilà, et évitez, si vous pouvez, le 24 ou le 25, je pense que c'est plutôt mieux. Mais voilà, bravo pour ce congrès. Parce que là, vous avez eu la chance de réunir de nombreux naturopathes. Quelle est la tendance du moment, l'humeur du moment, leurs préoccupations du moment et les succès du moment, les sources d'espoir, on va dire.
Alors, l'humeur du moment, c'est qu'ils sont toujours un peu inquiets sur est-ce qu'il y a de l'avenir dans nos métiers. Donc, on a fait une table ronde avec des membres du NERES, par exemple, avec Luc Besançon, qui est le directeur général du NERES, qui nous a donné les statistiques des consultations et des demandes et des distributions de compléments alimentaires. Même si notre métier, c'est pas que du complément alimentaire, quand on sait que ça continue à bien fonctionner, ça veut bien dire que les usagers sont toujours friands de prendre soin de leur bien-être et de conserver une bonne santé. Donc ça, c'est plutôt positif. Et l'autre tendance était le stress. Est-ce qu'on respecte bien l'éthique, la déontologie, le code du commerce? Et on avait Flavien, qui est un avocat au top, qui a fait une intervention qui a beaucoup plu et qui a permis de rassurer les adhérents en leur disant que déjà tout ce qu'ils faisaient, c'était très bien et de pouvoir continuer à exercer sereinement. Donc ça, c'était les deux tendances que j'ai pu sentir. Et puis après, avec les partenaires, je pense que tous les professionnels en naturopathie devraient aller un peu plus au contact des partenaires assureurs, partenaires plateformes de prise de rendez-vous, partenaires laboratoires de compléments alimentaires, si jamais ils conseillent des compléments alimentaires, parce que ça bouge vite, ça va vite. Et faire de la veille métier, c'est quand même important pour nous.
C'est vrai que ceux qui ne font pas de veille, ils peuvent recommander un actif ou un complément, on va exagérer, mais le lundi, et s'ils ne tiennent pas au courant, le jeudi, ce n'est pas la même recommandation du tout, par exemple.
On est bien d'accord là-dessus. On est tous les deux à dire que c'est important d'aller voir des partenaires régulièrement. Très souvent, on se retrouve au Nutriform Business Day ou au congrès du syndicat de naturopathie. C'est déjà deux événements par an. Je pense qu'un professionnel doit en choisir au moins un des deux pour essayer de voir ce qui se fait dans le monde de la nutraceutique et dans le monde de la phyto.
Exactement. Et un autre événement pour savoir ce qui se fait, cher Alexandra, et je vous ne félicite pas, c'est le Nutritalk Gala qui va arriver et vous devriez le savoir.
Non, mais Nutritalk Gala, je ne voudrais pas vous spoiler, mais effectivement, c'est vrai qu'on apprend aussi des choses. Mais je l'avais plus mis dans le côté récréatif, moi, le Nutritalk Gala.
Oui, mais c'est les deux, mais vous avez vu. On vous attend cette année, il y a récréatif, mais il y a beau. C'est du fond et du fun. Le petit cocktail de Nutri Radio avec des intervenants là pour la prochaine édition le 12 juin, incroyable, avec thématique la santé mentale et en fil rouge la nutraceutique, donc justement à l'occasion de faire un petit peu un point sur des ingrédients d'intérêt avec, bon voilà, je ne vais pas vous citer toute la liste, mais les intervenants, je peux dire, ils sont au top. Il y aura Vincenzo Castronovo notamment, Olivier Coudron, le docteur Pierre Maldiné, enfin bref, on n'est pas là pour faire la promo de cette émission, parce que vous y a aussi des questions, voyez-vous.
Bon là déjà, vous avez listé quelques copains, donc je sais que ça sera fun pour moi. Et aussi qu'on apprendra plein de choses sur la santé mentale.
Et oui, donc on va faire une première pause. On va revenir avec des questions, parce que c'est un peu le but de ces émissions avec vous. On profite de votre expérience et de votre statut pour motiver, pour booster aussi ces professionnels du bien-être, et donc notamment des naturopathes. On sait que l'activité n'est pas facile, mais on va aussi reparler avant de placer ces questions que vous nous avez envoyées sur nutriradio.fr grâce au formulaire de contact. On va aussi parler de cette certification AFNOR.
Donc
vous m'avez dit un petit mot lors de l'interview sur NutriTV, interview à retrouver sur NutriTV.fr. Petite pause, on se retrouve après ceci.
Club Naturo sur Nutri Radio.
Club Naturo. Et on est très heureux d'être, comme chaque mois, avec Alexandra Attalositi, notamment la présidente du syndicat national de la naturopathie, qui vient de terminer son congrès. On y était, c'était une vraie réussite, belle ambiance, mais petit bémol, la chenille n'a pas prise comme je l'aurais aimé.
Moi, vous pouvez le dire, hein, je me suis cachée derrière un mur quand vous êtes passé avec la chenille, je le sentais pas ce coup-là.
Mais non, mais vous savez quoi,
je suis désolée.
Grave erreur, c'est qu'on avait un JBL, mais une enceinte, voilà, mais qui était filaire. Donc on a dû la mettre sur secteur, et c'est vrai que quand on faisait 3 mètres, les gens, ils voyaient des gens, les exposants, ils voyaient des personnes passer faire la chenille, mais il n'y avait pas de musique pour eux.
Il n'y avait pas de musique.
C'était très très bizarre. On reviendra. Vous avez mentionné lors de ce congrès la certification AFNOR qui devrait aboutir normalement.
Parce qu'en fait, c'est les organisations professionnelles en naturopathie et les organisations professionnelles de réflexologie se sont réunies pour rédiger une norme métier, donc pour mettre en avant à la fois la déontologie, les types de pratiques du métier, le vocabulaire, mettre un petit focus sur les blocs de compétences nécessaires pour exercer la profession de réflexologue ou les professions dans le domaine de la naturopathie, qui peuvent être naturopathe ou conseiller en naturopathie. On a fini de rédiger les deux normes. Les deux normes sont à la Direction générale de la santé. La norme de naturopathie a déjà été publiée en enquête publique il y a de nombreux mois. Il y a encore des choses qu'il faut qu'on retravaille. Donc là, c'est les instances qui nous demandent de retravailler. Et la norme de réflexologie, elle est pareille dans le tube. Donc on espère qu'en 2025, elle verra le jour. Ce qui veut dire que les professionnels médicaux, paramédicaux, ne connaissant pas bien nos pratiques, pourront lire la norme pour voir que on travaille en complémentarité, mais à aucun moment on marche sur leur plate-bande. Ça permettra aussi de rassurer les usagers qui ne connaissent pas bien nos pratiques, et puis surtout d'insister auprès des instances gouvernementales et de dire écoutez, nous sommes de vraies professions. C'est même plus qu'un référentiel, c'est une norme métier. À quel moment vous allez vous décider pour nous reconnaître réellement et pour nous permettre d'exercer sereinement, de permettre aux gens qui sont très bien formés, très compétents, de pouvoir vivre encore mieux de leur pratique. Et pour dire aux gens qui n'ont peut-être pas fait suffisamment de formation, c'est pas grave, continuez à vous former pour atteindre l'objectif de la norme.
Bien, écoutez, on va enchaîner directement avec les questions parce que la transition est toute trouvée. Vous allez comprendre tout de suite cette question d'Elodie qui est naturopathe depuis 5 ans. Elle nous le précise dans son mail et elle me dit je suis consternée par le manque de reconnaissance officielle de notre profession. Malgré nos efforts pour offrir des soins de qualité, nous ne sommes pas considérés comme des acteurs à part entière du système de santé. Que fait le syndicat pour obtenir une reconnaissance légale et réglementaire de la naturopathie en France ?
Alors là, déjà, je vous ai cité la norme. Déjà, on ne pourra pas être considéré comme acteur dans un parcours de santé, ni même dans un parcours de soins, étant donné que nous ne demandons pas à être reconnus comme des professionnels de santé. Nous sommes des professionnels de bien-être qui pouvons travailler en complémentarité des professionnels de santé. Donc ça, c'est important. Nous sommes déjà reconnus par le ministère du Travail comme professionnels. Le syndicat des professionnels de la nature bâtie est une organisation représentative, c'est-à-dire que nos professionnels et nos chiffres de numéro de SIRET sont enregistrés au ministère du Travail. Ça veut dire qu'ils savent qu'on est quand même nombreux. Au syndicat de Naturo, on est 4 900. Naturaux. Donc, quand je discute avec des députés, avec des membres de ministère, ils savent qu'on existe quand même. La difficulté de la reconnaissance plutôt du monde de la santé, c'est qu'on a encore malheureusement, 15 naturaux qui font un peu n'importe quoi, et malheureusement, on ne parle que d'eux. C'est pour ça que je crois vraiment en la norme et au label qui pourra en découler, pour que on puisse dire aux usagers, ces gens-là ne sont pas des conseillers en naturopathie ou ne sont pas des naturopathes, et ce qui permettra à ma consoeur Elodie de moins lutter pour expliquer le qui elle est, parce que tout le monde le saura.
Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir, à un moment donné, une espèce de consensus de l'ensemble des naturopathes pour justement, on va dire, batailler en même temps pour les mêmes causes, parce qu'on a l'impression quand même que ce monde de la naturopathie, il est quand même un peu individualiste. Pardonnez-moi de vous donner cet avis.
Alors, je pense que le monde de la naturopathie est clairement individualiste, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais par contre, pour la reconnaissance métier, toutes les organisations professionnelles, que ce soit la FENA, l'OMNES, la PNS, la PHN, l'AFNAT et le syndicat ont bossé ensemble sur cette norme. Donc, on va tous dans la même direction. Quand on a des réunions, on y va tous ensemble. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de représentants du syndicat, il y a des représentants de l'OMNES et vice-versa. Là où c'est compliqué, ce sont les professionnels qui ne comprennent pas qu'on doit s'organiser et on doit parler tous le même langage et on doit être solidaire. On n'est pas des coiffeuses et des esthéticiennes reconnues et je comprends que tu n'aies pas envie d'adhérer à une organisation professionnelle quand tu es coiffeuse, ce que tu dis, ça ne sert à rien. Tout est normé, tout est qualifié. Nous, quand on est en train de faire reconnaître nos métiers, c'est là où on doit soutenir. Et je vous l'ai dit, hein, Fabrice, quand on s'est venu au congrès, normalement, tous les naturaux devraient être présents à un événement d'une organisation professionnelle, que ça soit l'OMNES, la FENA ou le syndicat. Et là, c'est pas encore le cas. Donc, je pense que l'individualisme vient pas des organisations professionnelles où on travaille vraiment en équipe, on s'entend tous très bien et on a tous la même vision. Mais c'est vraiment chaque professionnel qui doit se dire, plutôt que je reste dans mon cabinet tout seul à dire aux médecins avec qui je bosse, aux pharmaciens, mais si on bosse bien, on est sérieux, il faut se regrouper et dire ça de façon plus corporate, plus coordonné et tous ensemble.
Oui, parce que c'est individuel. Si on le rend aussi individuel, donc là, par exemple, lors de ce congrès des professionnels de la naturopathie, c'est un bon moment, au-delà de rencontrer ses confrères, aussi de se mobiliser et de faire front commun pour plein de choses, et notamment, vous avez dit, cette reconnaissance. On va marquer une dernière pause et on va prendre d'autres questions, car il y en a d'autres, Alexandra, évidemment. C'est une fois par mois l'année dernière, c'est toutes les semaines, donc il y avait plein de questions. Là, on peut pas toutes les traiter, mais on a eu beaucoup de retours sur une des questions qui avait été posée le mois dernier. Souvenez-vous. On n'en reparlera pas. Je vous conseille d'aller sur le podcast. Hein. Dernière partie de l'émission, c'est juste après ceci.
Club Naturo sur Nutri Radio.
Dernière partie de cette émission, Club Naturo sur Nutri Radio avec Alexandra Ataloziti. On va répondre à la question de Damien. Damien qui est ostéopathe et praticien en bien-être. Il est inquiet face aux menaces de poursuites judiciaires pour exercice illégal de la médecine. Certains de mes collègues ont été attaqués alors qu'ils ne faisaient que leur travail. Comment pouvons-nous protéger légalement, éviter de tels risques tout en continuant à aider nos clients? C'est vrai que cet exercice illégal de la médecine, il est au-dessus de nombreuses têtes de professionnels du bien-être. Hein.
Je comprends l'inquiétude de mon collègue, mais dans les faits, on est accusé d'exercice illégal de la médecine dans quelques cas. Pose de diagnostic, c'est-à-dire qu'un professionnel du bien-être ou même un ostéopathe pose un diagnostic, c'est-à-dire je pense que vous avez une cruralgie ou je pense que vous avez un H ou je pense que vous avez une maladie de base d'eau. Ça, c'est un diagnostic. Si votre usager à qui vous avez posé un diagnostic en touchant son corps en tant qu'ostéopathe ou en touchant ses zones réflexes en tant que réflexologue ou lors du bilan que vous faites en tant que naturo, bah, c'est un diagnostic, c'est puni par la loi et c'est légitime étant donné que les professionnels compétents pour poser des diagnostics sont les professionnels médicaux et paramédicaux. Je le rappelle, si vous êtes un ancien pharmacien et que vous exercez comme naturopathe ou si vous êtes un ancien infirmier et que vous exercez comme réflexologue, vous ne devez quand même pas poser de diagnostic dans le cadre de votre exercice de métier du bien-être. Donc ça, c'est le premier risque. Autre risque, c'est quand on a un professionnel du bien-être qui demande d'arrêter un traitement ou qui demande de diminuer un traitement. Ça, c'est pareil, c'est un exercice illégal de la médecine, déjà parce qu'on n'est pas compétent pour maîtriser le dosage d'un médicament, et deuxièmement, parce que bah, ça ne fait pas partie de nos missions en tant que professionnels du bien-être. Donc honnêtement, moi, je trouve que ces derniers mois, les dossiers que j'ai vus remonter, hein, parce que je ne vois pas remonter tous les dossiers que j'ai vus remonter, c'était quand même des professionnels du bien-être qui avait été un peu loin. Les autres dossiers qui sont sortis, c'est très souvent parce que des usagers n'ont pas bien compris ce que vous proposiez, ou les familles des usagers, et là, les avocats doivent un peu plus batailler pour défendre le professionnel, mais c'est assez rare que le professionnel qui a bien travaillé, qui a été de bonne foi, et qui n'a pas posé de diagnostic ou pas éloigné du parcours de santé l'usager, soit ennuyé. Mais voilà, si votre collègue a un souci, vous savez que les organisations professionnelles ont des services juridiques. Donc, si c'est un confrère ostéopathe, il y a deux organisations professionnelles d'ostéopathes avec un très bon service juridique pour qu'ils puissent vous aider et pouvoir défendre votre pratique.
Alors, vous avez parlé de l'usager, des retours des usagers, et aussi vous avez mentionné les familles. Ça arrive souvent que les familles, en dépit de ce que pense et du bien fondé de la pratique que reçoit l'usager, puis disent « mais qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce qui fait ? Quelle influence ?» Ça arrive souvent ?
Alors, pas souvent, hein, parce qu'il y a des cas hein, dans l'histoire de la défense des praticiens du bien-être. Il y a les personnes qui sont décédées, donc les familles qui s'interrogent sur ce que faisait le parent ou l'enfant à la fin de sa vie et quand il utilisait des pratiques pas très connus ou non conventionnels pouvaient décider de porter plainte pour ou dérive sectaire, même si ce n'était pas une dérive sectaire, voilà. Et puis il y a aussi des publics fragiles, donc vous le savez, en tant que professionnel du bien-être, on accompagne des publics fragiles, et bah des fois les familles s'inquiètent pour ce public fragile et peuvent décider de porter plainte pensant bien faire pour protéger leur famille. Donc ça arrive.
Et alors, aussi, une chose que je ne savais pas, c'est que si on est pharmacien ou je sais pas, même ancien médecin et qu'on a arrêté et qu'on pratique la profession de naturopathe ou de professionnel du bien-être, on ne peut plus poser de diagnostic même si on sait.
À partir du moment où on a l'expertise, c'est pas parce qu'on a les compétences d'une pratique qu'on a le droit d'exercer cette compétence. C'est-à-dire que quand vous êtes pharmacien au comptoir, vous êtes pharmacien, et si le mercredi et le samedi, vous êtes votre cabinet de naturopathie ou votre cabinet de praticien massage bien-être, vous êtes praticien de massage bien-être le mercredi et le samedi, même si vous avez un doctorat en pharmacie. Donc, c'est très, très clair. Et le conseil de l'ordre, tous les conseils de l'ordre sont très clairs, que ça soit infirmier, pharmacien, médecin, kiné. Il faut pas faire n'importe quoi. Donc, on ne peut pas mettre en avant notre expertise et même dans la communication. On ne peut pas dire infirmière naturopathe. On doit dire infirmière de formation exerçant la pratique de naturopathe.
Très bien, beaucoup de subtilité. On va terminer avec une dernière question. Et je peux vous dire que celle-là, on l'a sous toutes les coutures, pour tout vous dire. Donc, j'en prends une qui synthétise beaucoup d'autres, mais elle revient souvent. Elle revenait aussi l'année dernière, ça va vous parler. Pierre qui me dit Alexandra, enfin qui vous dit du coup, il vous nomme d'ailleurs. Alexandra, je suis préoccupé par la prolifération de formations en ligne de mauvaise qualité qui prétendent former des praticiens en quelques semaines. Ces pseudo-professionnels nuisent à la crédibilité de notre métier. Comment le syndicat peut-il réguler ou contrôler ces formations pour assurer un niveau de compétence minimum ? C'était même pas la question que je voulais vous lire. En fait, c'était la question du dessus, mais je me suis trompé. Mais c'est pas grave, on prend la question de Pierre.
Bon, écoutez, Pierre, en tout cas, moi aussi, je suis agacée de voir autant de formations qui sortent. Là où je suis plus ennuyée, c'est que les prospects de ces écoles et qui vont signer des contrats à ces écoles imaginent qu'à 2000 euros, on peut intégrer des compétences pratiques pour exercer un métier où nous sommes beaucoup à s'être formés en plusieurs années. Il y a deux choses. Nous, le syndicat, on a déjà des écoles qui sont accréditées par le syndicat. Ça veut dire que l'ingénierie pédagogique, les blocs de compétences ont été validés par le syndicat. La FENA fait la même chose, l'OMNET fait la même chose, la FNAT, la PHN, la PNF. Je pars du principe que là, déjà, il y a une trentaine de centres de formation qui sont reconnus par leur pair. Les autres écoles qui ne sont pas dans une organisation professionnelle ou on ne les a pas validés parce que le cursus n'était pas assez complet, ou ils n'ont pas envie de bosser avec des organisations professionnelles. Mais moi, je pars du principe, vous prospects qui m'écoutez, parce que Pierre, il est pro, donc il sait ce qu'on en est, mais vous prospects qui m'écoutez, réfléchissez, est-ce que vous pensez vraiment qu'en étudiant une journée l'anatomie-physiologie, vous allez être capable d'expliquer à quelqu'un qui va commencer sa dialyse dans une semaine, comment est-ce que vous allez pouvoir l'accompagner en rééquilibrage alimentaire, en réflexologie ou en phytothérapie en complément de sa dialyse. Clairement, il faut quand même maîtriser un peu la fonction rénale et pourquoi est-ce qu'il est venu à la dialyse pour accompagner au mieux ce client. Bah, posez-vous des petites questions comme ça dans la vraie vie. Quand je vais accompagner un sportif de haut niveau qui veut améliorer ses performances et aller sur une première marche, est-ce que vous êtes suffisamment compétent en ayant fait quelques heures de formation ou pas. Je pense que le souci est là. Après, une fois qu'on aura la norme métier, il y a les nombres d'heures, les nombres de blocs de compétences qui seront détaillés. Là, ça sera le travail de la répression des fraudes et des autres organisations de contrôle, de dire à ces gens, bah, écoutez, vous avez 6 mois pour vous mettre en conformité ou 12 mois pour vous mettre en conformité.
Vous avez l'impression que ça avance, Alexandra, parce que voilà, les naturopathes se posent de nombreuses questions. On peut avoir, on a des questions. Bon, on parlera ça le mois prochain, parce qu'il y a des questions, justement, beaucoup de questions de naturaux qui aussi le propre de beaucoup d'entrepreneurs. Les montagnes russes, un jour on y croit à fond, le lendemain on se réveille, on est au fond du seau. Donc là, en l'occurrence, ça n'échappe pas à la règle, et donc qui se disent bah, à quoi ça sert, on se bataille, il n'y aurait jamais de reconnaissance. Là, on a l'impression que ça commence à bouger.
Ah, moi, clairement, faut que vous disiez que la norme AFNOR, on a commencé à parler à AFNOR à la création du syndicat, c'est-à-dire il y a 8 ans. Là, la norme, elle est presque sortie. Donc, il y a quand même des choses qui ont évolué. N'oubliez pas qu'avant 2017, un médecin s'appelait naturopathe et n'importe qui s'appelait naturopathe. Depuis 2017, il y a une réglementation. Les médecins n'ont plus le droit de s'appeler naturopathe et nous, on a le droit de s'appeler naturopathe si on a des compétences en conseil, des compétences en technique réflexe et des compétences en technique de respiration. Ça veut bien dire qu'il y a des marches qui ont été gravies. Là où je trouve que c'est trop lent, et je le dis souvent hein, quand on est ensemble, Fabrice, là où je trouve que c'est trop lent, c'est le juridique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font n'importe quoi et qui sont encore en exercice. Donc ça m'énerve fortement parce que bah ça met en danger l'usager et ça met en danger économique mes collègues. Et là où ça m'énerve aussi, c'est que la direction du travail laisse des centres de formation proposer des formations soi-disant professionnalisantes, alors que clairement, quand tu te formes 150 heures, 200 heures, pour être naturopathe, que tu vois jamais aucun client dans tes cas d'entraînement, bah, ça pourra pas fonctionner. Donc ça m'énerve. Mais je pense que il faut qu'on continue à mettre la pression et c'est maintenant qu'on doit être encore plus solidaire et plus combatif. Et malheureusement, je trouve qu'il y a des naturaux qui baissent un peu les bras, voilà. Donc il faut relever la tête et se dire c'est bientôt la fin. N'oublions pas que nos confrères ostéopathes, ils ont galéré très très longtemps avant d'être reconnus et ils le sont. Avec des moments où si c'est plus ou moins compliqué. Donc je pense que peut-être que les instances espèrent qu'on perde patience, mais le mindset, normalement, quand on est professionnel en naturopathie ou dans d'autres métiers, c'est la base de notre pratique. Donc on devrait pouvoir y arriver.
Il ne faut pas lâcher, d'autant que, et on le voit dans cette vision intégrative de la santé, il y a quand même de plus en plus de médecins qui ont conscience de l'intérêt de collaborer avec des naturopathes parce que ils peuvent pas tout faire et donc voilà, c'est des binômes vraiment d'intérêt, donc il faut continuer et moi c'est mon petit conseil qui vaut ce qui vaut, mais c'est vrai que cette vision intégrative avec un naturo qui travaille en lien avec un professionnel de santé, c'est quand même d'autant plus efficace que travailler tout seul dans son coin, on est d'accord Alexandra?
Non, et puis c'est surtout, moi j'ai eu la chance de toujours exercer avec des professionnels médicaux et paramédicaux depuis le début de ma pratique, hein, donc il y a plus de 22 ans. C'est beaucoup plus épanouissant intellectuellement. Alors après, si vous faites partie des naturons, en disant nous les naturons, on est plus intelligents que les médecins, on est plus intelligents que les pharmaciens, bah oui, ok, je comprends que vous n'ayez pas envie d'aller vers là. Mais si vous êtes bien conscient que pour accompagner des usagers et être épanoui dans votre pratique, bah, tout seul dans son cabinet, c'est vite relou, quoi.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les petites questions du jour étaient sympathiques et j'en ai encore une tripotée pour la prochaine fois tout aussi intéressante. Merci Alexandra. Si vous avez des questions concernant les usages que vous pouvez ou pas pratiquer en cabinet, vous n'hésitez pas également. Hein. Ça, c'est aussi très
intéressant. Vous aimez bien ces petites questions un peu tordues. Hein.
Mais pas du tout. Je trouve que voilà, ça met un peu de légèreté. Quoique, vous savez, la dernière question qu'on a relayée, il y a eu beaucoup de polémiques en disant « Oui, mais ça ne met pas le métier de naturopathe à l'honneur. » C'est bien la réponse qui était importante. Parce que si des gens se posent des questions qui paraissent un peu farfelues, c'est bien de les recadrer, voyez-vous, pour que justement, il n'y ait pas d'erreur de commise. Merci beaucoup, Alexandre.
Je pense aussi, oui. Fabrice, que Nutri Radio, c'est une radio qui est très très écoutée. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a que des professionnels qui nous écoutent. Il y a aussi des usagers des pratiques de bien-être. Donc c'est important de leur dire ce qui est une pratique de bien-être et ce qui ne l'est pas.
Exactement. Vous ne pouvez pas travailler à la com sur Nutri Radio.
Je suis peut-être trop cher pour Nutri Radio.
Ah ben ça c'est sûr. Attendez, là on fait les comptes bilan. Vous nous avez fait un trou dans la caisse, je ne vous raconte même pas. Hein. Bon allez, on va se retrouver le mois prochain très vite. Au mois de décembre, dernière émission de l'année déjà ensemble. On va vite se retrouver. Et donc, auditeurs, chers auditeurs, qui prenez le temps de poser ces questions, déjà on vous remercie. Et on va essayer de répondre au plus grand nombre encore très vite. On va peut-être pas attendre un mois avant de se retrouver, Alexandra, parce que là, c'est vrai que le temps file et on va donc caler une date très 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 bientôt. Merci Alexandra.
Merci à vous tous, prenez soin de vous, au mois prochain.
Cette émission elle sera dispo en podcast là dans la foulée tout de suite. Si vous venez d'arriver, vous voulez l'écouter tranquillement, on la met en podcast maintenant. C'est la réactivité de Nutri Radio et pour l'instant, c'est le retour de la musique tout de suite.
Club Naturo sur Nutri Radio.